aller à l'église. Est-ce indispensable? Dieu n'est-il pas partout? C'est une question d'actualité, ne trouvez-vous pas? Surtout avec le Covid à l'heure actuelle et toutes les restrictions qu'on vit. Certains vivent leur foi sans avoir d'attache dans une église locale. Ils lisent leur Bible, prient Dieu et suivent éventuellement des cultes en ligne. C'est une bonne chose, bien évidemment, de prier et de privilégier la relation avec Dieu. Une relation vivante, une foi vivante et personnelle. Mais est-ce le plan de Dieu? Est-ce suffisant? Il existe une multitude d'églises. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches. Les principales sont notamment le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme avec sa branche évangélique. Les milieux évangéliques portent des couleurs diverses et bien différentes. Dans chaque lieu de culte, la spiritualité est vécue d'une manière définie et bien spécifique. Voici quelques exemples de cette vaste palette dans nos milieux évangéliques. Bien évidemment, ce modèle n'est pas exhaustif. Et c'est peut-être des fois un peu une caricature. Il y a des églises qui ressemblent à des musées. L'architecture, la décoration, le mobilier, la musique, ainsi que l'art oratoire sont plutôt traditionnels et perpétuent de longues traditions. Le public, en général, est plutôt aisé et issu de la bourgeoisie. Ensuite, il y a des églises qui ressemblent à des salles de spectacle. Le culte est un véritable show. Les intervenants sont ce qu'on appelle aujourd'hui branchés. Ils portent un micro-cravate, gesticulent et marchent de large en long sur la scène. Les messages sont souvent improvisés et on s'attend à vivre du sensationnel, voire du surnaturel. Les adeptes sont plutôt jeunes. Puis, il y a des églises traditionnelles. Ici, l'enseignement de la parole de Dieu est mis au centre du culte. Les prédications sont bien construites et les pasteurs ont une formation théologique. Il y a aussi des églises qu'on appelle églises du bien-être, de l'anglais cocooning. Ici, on se sent bien. L'accueil, la communion fraternelle et l'entraide sont les piliers de l'Église. Dans ces milieux, on prend soin les uns des autres. Le focus est placé sur les personnes ayant un cœur meurtri, de grandes souffrances, voire les marginaux de notre société. Et pour finir, il y a les églises qu'on appelle églises pastorales. L'évangélisation et l'action sociale sont au centre de la communauté. Ce sont des églises aussi qu'on appelle églises branchées. L'idée derrière ce modèle d'église est d'amener de nouvelles personnes à l'église. Les messages sont adaptés aux nouveaux arrivants. Ils sont simples, sans patois de Canaan, et tournent autour du salut. L'Église est vue comme un lieu de formation, d'entraînement et de ressourcement. Ces églises ont des croyants de tout âge. Je suis personnellement, intimement convaincue qu'il y a de bonnes choses à prendre dans chaque modèle que nous venons de décrire. Aucune Église n'est parfaite. Et si c'était le cas, j'aime à dire qu'à mon arrivée dans celle-ci, elle ne l'est plus. J'invite maintenant David Abeguer à me rejoindre pour faire la lecture d'Actes 2, 41 à 47.
Oh. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Merci beaucoup, David. La péricope qui nous intéresse aujourd'hui se trouve être la fondation de la première communauté chrétienne. Celle-ci émerge juste après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. 3000 personnes se donnent au Seigneur Jésus-Christ, se font baptiser et deviennent des disciples. N'est-ce pas magnifique? On se réjouit le jour où ça arrive dans notre église, n'est-ce pas? Je plaisante. C'est ainsi que débute, il faudrait tout transformer. C'est ainsi que débute l'église du Nouveau Testament. Comment définir l'église? Dans l'Ancien Testament, l'église de l'hébreu Kahal signifie assemblée, congrégation d'Israël. Dans le Nouveau Testament, l'Église est la communauté formée par tous les croyants de tous les lieux et de tous les temps. Pour les réformateurs, donc pour nous les évangéliques, la parole de Dieu est le fondement de l'Église. La convention évangélique distingue entre l'Église universelle et l'Église locale. L'Église universelle est l'Église invisible, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants dispersés dans le monde. C'est une communauté parfaite, invisible, connue de Dieu seul. Dans Matthieu 16, 18, Jésus décrit l'Église universelle. Tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon Église. L'Église visible et l'Église locale, c'est une communauté concrète, visible, vue par les croyants. Les 3000 nouveaux convertis font partie de l'Église primitive, appelée plus tard l'Église locale. Ecclésia, du grec signifie « assemblée de Dieu, peuple de la nouvelle alliance ». C'est nous, aujourd'hui, en tant que communauté. Qu'est-ce qui nous définit en tant que croyants de l'Église locale? C'est ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Dans Actes 4:32, nous trouvons cela. Pour le dire autrement, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Comment est-ce que les croyants, les disciples, sont appelés dans le Nouveau Testament? Ils sont très souvent appelés saints. Donc vous êtes saints. Donc c'est nous aujourd'hui. Paul utilise ce qualificatif dans ses salutations. Saint est une identité acquise par l'œuvre rédemptrice de Christ. Par l'œuvre rédemptrice de Christ, pardon. Identité que les chrétiens sont appelés à vivre. Quel est le sens étymologique de l'Église locale? Appelée hors de. Appelée hors de, en quelque sorte mise à part. Mais nous vivons dans le monde, mais on est mis à part pour Dieu. Le Christ a annoncé le royaume, mais c'est l'Église qui est venue. Regardons d'un peu de plus près ce que le texte fondateur préconise pour la première église, l'église primitive de Jérusalem. Thessaloniques ont accueilli la prédication de Pierre. Ils ont accepté le Christ comme sauveur et seigneur et se sont fait baptiser. L'Église, des lendemains de la Pentecôte, repose sur quatre piliers fondamentaux. Dans Actes 6, 1, un cinquième pilier est ajouté. Donc ces piliers se trouvent dans Actes 2, 42 à 43. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière et l'intercession. Et le cinquième que j'ai rajouté, qu'on voit dans Actes 6, action diaconale et le service. Le premier pilier, l'enseignement de la parole de Dieu, qui est le premier qui est nommé. Ça montre l'importance de la parole de Dieu. L'Église primitive a vu le jour parce que la parole de Dieu, l'Évangile, a été prêchée. Je fais un petit clin d'œil à Rose en ce moment au sujet justement de l'Évangile. Parce que quand j'étais venue pour faire mes deux jours de questions-réponses, nous avions justement eu une discussion là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lui poser la question sur l'évangélisation. Donc, je ne peux pas faire autrement que lui donner un clin d'œil en ce moment. L'Église vit par et de la parole de Dieu. La parole de Dieu lue, méditée, étudiée, enseignée, priée et mise en pratique est le fondement de la vie d'Église. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement. Ils voulaient ardemment connaître, comprendre, vivre et appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Cette même parole les transformait, les équipait pour le service. Ils avaient faim et soif de l'Écriture. Le deuxième pilier, la communion fraternelle. L'Église, c'est un vivre ensemble, c'est un être ensemble, c'est partager nos joies, nos peines, nos victoires, nos combats, les uns avec les autres. La communion fraternelle participe au rayonnement de l'Église. C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples. C'est un corps qui est appelé à vivre concrètement la solidarité, l'interdépendance, la communion et l'amour fraternel. Les premiers disciples mettaient tout ce qu'ils avaient en commun et ils partageaient leurs biens selon les besoins de chacun. Ils prenaient soin les uns des autres. Ils étaient prêts à sacrifier une partie de leurs possessions pour le bien commun. L'autre, le frère, la sœur en Christ avait une valeur inestimable à leurs yeux, bien plus que leurs possessions. Que sommes-nous prêts à abandonner pour le bien commun? Troisième pilier, symbolisé par l'adoration, par la fraction du pain et la célébration de la scène. Dieu prend plaisir quand ses enfants se réunissent pour lui rendre un culte, pour l'adorer, le célébrer et le louer. C'est alors que nous accomplissons notre vocation en tant que créature, rendre gloire à notre Créateur. C'est dans ces moments de cœur à cœur, d'intimité avec Dieu et nos frères et sœurs, que Christ, que nous nous rapprochons du Christ et de nos frères et sœurs. Nous apprenons à mieux nous connaître, à mieux le connaître, à lui parler, à l'écouter et à grandir dans notre relation personnelle avec lui. Le partage du pain autour d'un repas faisait partie intégrale de la culture. Au début de l'Église, ce n'était pas clair si on parlait du partage du pain convivial lors d'un repas ou s'il s'agissait de la scène. Ce qui est certain, c'est qu'en échangeant les uns avec les autres, le pain, on apprenait à se connaître. De ce fait, l'amour fraternel grandissait entre eux. Le quatrième pilier, la prière et l'intercession. La première église était une église qui priait. que ce soit individuellement, mais également communautairement. Cette Église aura 102 ans ou aura 100 ans, tout dépend comment on voit les choses, parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés, parce qu'il y avait des chrétiens qui ont prié, qui étaient là, qui se sont investis dans cette communauté. Gloire à Dieu pour son Église et son corps. La prière est au centre de leurs préoccupations. Ils s'adressaient à Dieu par des prières et des supplications. La prière est ce qui tient les piliers. En quelque sorte, le ciment de la communauté. Sans la prière, les autres piliers s'effondreraient. C'est l'oxygène indispensable à la vie humaine. Et le dernier pilier, l'action diaconale et le service. C'est le service concret pour ceux qui sont dans le besoin. En premier, ce service est dirigé vers l'intérieur, les propres besoins de la communauté, l'entraide. Ensuite, les disciples répondent aux besoins externes à l'Église. L'amour de Christ est concrètement partagé de l'entraide et le service. La foi est le dénominateur commun des chrétiens. La foi rend la parole de Dieu pertinente. La foi purifie les relations fraternelles. La foi donne sens au partage et à la scène. La foi stimule la prière. Et pour finir, la foi rend apte au service. Ces cinq piliers qui font de l'Église sont essentiels et simples, même faciles à mettre en pratique. N'oublions pas que c'est juste après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils étaient chauds bouillants, plus rien ne pouvait les arrêter. En plus, il y avait la persécution. De nos jours, c'est plus difficile. Nos vies bien remplies, avec toutes les sollicitations et les opportunités, nous empêchent parfois de communier avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Je reviens à ma question du début. Aller à l'Église, est-ce indispensable? Dieu n'est-il pas partout? Je tiens à dire que je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit, bien au contraire. Je sais que chacun fait du mieux qu'il peut. Mon cœur n'est vraiment pas de juger, mais de nous donner un éclairage biblique. Nous connaissons tous des personnes qui n'ont plus d'appartenance ecclésiastique. Ils ont, à leurs yeux, très certainement quitté leur communauté pour de bonnes raisons. Cela vient souvent de blessures que l'on s'inflige mutuellement ou de désaccords. Cela me travaille et m'attriste profondément. Si quelqu'un qui écoute ce message se trouve être dans cette situation, je désire aujourd'hui, au nom de l'Église locale, m'excuser envers vous pour les torts subis. J'espère sincèrement que vous arriverez à nous pardonner. D'autres rejoignent des cellules ou des groupes de maisons et vivent ainsi leur foi. Certains se contentent de suivre des cultes en ligne. C'est plus simple. Il n'y a plus de contraintes. Il ne faut plus s'habiller le dimanche matin. Et quelques-uns vont à l'église seulement quand ils n'ont pas mieux à faire. Cela me questionne aussi. Est-il important de s'investir dans une église locale? J'en suis persuadée. Et je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. L'église locale est le choix de Dieu. C'est lui qui l'a voulu. Acte 2,47. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur en personne qui ajoutait des membres à l'Église. 1 Corinthiens 1,2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Ce qui est certain, c'est que Dieu ne nous veut pas seuls. Il ne veut pas d'électrons libres. Le Nouveau Testament est en grande majorité rédigé à l'intention des églises locales. Marc 10, 29 à 30, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Le Seigneur nous promet une famille spirituelle qui en fait nous attend au sein de notre église locale. Au travers de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a rédigé des lettres à diverses églises locales se réunissant dans différentes villes. Jésus a exhorté ses disciples à rester ensemble dans l'attente du Saint-Esprit. C'est ensemble que Dieu, dans sa grande bonté, a envoyé le Saint-Esprit afin de nous revêtir de sa puissance. J'aime cette image. Un homme prétend être un cycliste de haut niveau. Cependant, il n'est jamais monté sur un vélo. C'est la même chose avec l'église locale. Comment pouvons-nous prétendre être chrétiens sans vivre ensemble le communautaire? C'est le béaba des chrétiens, le communautaire, l'être ensemble. L'église locale est indispensable à notre croissance spirituelle. C'est dans ce cadre que Dieu a prévu le développement de chacun par la prédication et le contact avec d'autres enfants de Dieu. En nous frottant les uns aux autres, Dieu nous rend meilleurs. Il nous transforme à l'image, à la ressemblance de Christ. Persévérons dans l'église locale. Ceci est un acte d'obéissance. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Ceci se trouve dans Hébreux 10, 25. Chacune et chacun sont voulus par Dieu dans l'église locale. Si vous ne venez pas, si vous ne prenez pas votre place, vous manquez dans la communauté. Personne, mais vraiment personne, ne peut prendre votre place. Vous êtes indispensable. Santé. Tout procède de Dieu. Tout revient à Dieu. Gloire à notre Dieu. Saint Augustin a dit la chose suivante. Il y a beaucoup de brebis hors de l'église et beaucoup de loups dedans. Ne nous égarons pas. Le diable rôde autour des chrétiens comme un lion rugissant, cherchant à en dévorer quelques-uns. Soyons et restons vigilants. Le 2 mai prochain, à mon retour de mes vacances, nous nous intéresserons à la mission et à la raison d'être de l'Église locale.